Chapitre 15. Dans son fief, le général Outros broyait du noir. Depuis son entretien avec les émissaires, il passait sans cesse de l'incrédulité à l'abattement. À l'ouest, en direction de Colader, le soleil sombrait derrière les collines. Se levant, Outros alla fermer les volets. Dans leur coin, Ava et Rouva ajoutaient aux braseros de généreuses poignées de leurs herbes spéciales. Du coup, la fumée prenait moins Outros à la gorge qu'il aurait pu le craindre. Une idée l'obsédait. Était-il possible qu'il ait conquis un continent, traversé une chaîne de montagnes et assiégé une cité de légende au nom d'un empire qui n'existait plus? L'histoire pouvait-elle vraiment être si cruelle? Après tant d'incroyables triomphes, pourquoi le temps l'aurait-il trahi ainsi? Oui, au fond de son cœur, il croyait les propos de Nathan et Nietzsche. Comment nier ce qui lui crevait les yeux? Portes et fenêtres fermées, des gardes empêchant quiconque d'entrer, Outros était seul avec ses magiciennes. Hélas, leur pouvoir se révélait impuissant contre le mal qui le rongeait. Croix de Fer était bel et bien mort, son empire tombé en poussière. Quant à Magel, dans tous les cas, Outros aurait pleuré sa mort, mais savoir que son mari l'avait écorché comme un vulgaire daim, ses douces épaules, ses seins généreux, son ventre plat et ses cuisses lisses, tout ça à vif. Fermant les yeux, le général revit en esprit sa superbe amante, son regard plein d'amour et de passion interdite rivé sur lui. Quand il se retrouvait, elle était si heureuse de se blottir dans les bras d'un homme désireux de l'aimer et non de la posséder. Tué par son époux, l'empereur à qui Outros avait juré fidélité, un homme que Magel et lui avaient trahi.
Vous pensez que c'est vrai ?
Demanda-t-il aux magiciennes comme s'il les implorait de lui mentir. Les jumelles avaient peint de nouveaux motifs sur leur visage et sur leur cou, des couleurs très vives qui blessaient presque les yeux.
Comment ça pourrait être faux ? Répondit Ava. Tu le sens, Outros, chérie. Au fond de toi, tu le sais.
Quand les émissaires étaient là, dit Rouva, je n'ai pas pu lancer un sort de vérification, mais je n'ai pas vu de duplicité dans leurs yeux.
Même si l'empereur Kourgan n'est plus, reprit Ava, notre loyauté te reste acquise. Tu es et seras à jamais notre chef. Les soldats dehors n'obéissent qu'à toi et se moquent du nom de l'empereur.
Moi, c'est lui que je sers, rappela Outros. Avant de quitter Orogang, j'ai juré de remplir ma mission. Pour ce faire, je n'ai besoin d'aucun ordre supplémentaire de Kourgan. Sort de pétrification ou pas, le passage du temps ne change rien. Je dois toujours conquérir Ildakar.
Si tu le désires, dit Ava, la ville tombera. Pour toi, les hommes iront jusqu'au bout.
Rouva enchaîna si harmonieusement qu'on eût dit qu'elle lisait les pensées de sa sœur.
Après la victoire, tu deviendras le chef militaire de la cité, le nouveau dirigeant d'un empire moderne.
Non, souffla Outros, choqué par cette idée. Si je fais ça, j'aurai le sentiment d'être un pire traître encore.
L'image de Magel flottant dans son esprit, il la conjura tendrement.
Je suis un militaire, pas un tyran assoiffé de pouvoir. Je ne me bats pas pour moi.
Certes, convint Rouva, mais ton armée a besoin d'un chef. Agis comme tu sais devoir le faire.
Tu as sans doute raison.
S'étirant, Outros tenta d'assouplir sa chair trop raide.
Je suis un chasseur, et devant moi se tient la proie que je compte tuer. Avant de savoir que faire de sa peau et de sa viande, je dois lui porter le coup de grâce.
À mort, Ildakar!
S'écrièrent les jumelles. Outros ferma les yeux et rentra en lui-même. Sans nul doute, les magiciennes crurent qu'il songeait à ses plans, imaginant le meilleur déploiement possible des divers régiments. Même si les défenses magiques tenaient, un assaut bien mené terroriserait les habitants. En réalité, Outros pensait à Magel. Sur son visage, pas un trait ne bougeait, une façon de cacher son dégoût et sa révolte. Une si belle et si douce femme massacrée ainsi, il aurait dû être avec elle pour la sauver.
Mais comment deviner que leur secret était à ce point éventé? Quelle erreur avait-il commise? Il se montrait si prudent. Hélas, un seul faux pas pouvait avoir suffi. Malgré l'envie de se confier qui le taraudait, il avait écrit très peu de lettres à Magel, en lui demandant de les brûler après les avoir lues. Même si elle les avait gardées, qui aurait osé fouiller dans les affaires d'une impératrice? Et aucun messager n'aurait brisé le sceau pour connaître le contenu d'une lettre? Certes, mais Kourgan avait peut-être intercepté une des missives. Après tout, pourquoi un général aurait-il envoyé du courrier scellé à l'épouse de son empereur? Interrogé par Croc de Fer, quel messager n'aurait pas fini par craquer? Outros connaissait Kourgan comme s'il l'avait fait. L'homme qui régnait à Orogang était cruel et capricieux. L'image que l'histoire avait gardée de lui devait être celle que présentaient Nietzsche et Nathan. Sa grandeur, Croc de Fer la devait aux victoires et à la sagesse de son principal chef militaire. Malgré son incompétence, Kourgan avait pu diriger l'empire qu'un autre avait bâti pour lui. Avait-il vu la vérité en face? S'était-il montré jaloux d'un général trop talentueux? S'il avait pris conscience d'être un imposteur, son armée et son peuple s'en étaient sûrement aperçus aussi. Déjà rongé par ce mal, comment aurait-il pu supporter d'apprendre qu'il était aussi un amant médiocre, un terrain de plus où Outros le dominait? Tel qu'en lui-même, Croc de Fer s'était vengé sur la femme sans défense qu'Outros aimait plus que tout au monde. Magel. Oui, Kourgan avait très bien pu écorcher vive sa femme avant de la livrer aux fourmis rouges. De toutes ses forces, Outros tenta de bannir de son esprit les images qui l'assaillaient. Dans son agonie, Magel avait-elle crié son nom, toujours fidèle à leur amour malgré la douleur, ou avait-elle imploré son monstre de mari de lui pardonner? Au seuil de la mort, avait-elle renié leur passion? Même si elle l'avait fait, ça n'aurait servi à rien. Outros savait qu'un conflit de loyauté avait fait rage en elle. De son côté, il avait lutté à chaque instant contre des sentiments antagonistes. Après avoir juré fidélité à Kourgan, il avait offert son cœur à Magel. Comment concilier de telles contradictions? La loyauté ou l'amour? Tant que Kourgan avait ignoré la vérité, Outros s'était résigné à compartimenter son esprit, un jeu difficile et dangereux mais dont dépendait son équilibre mental. Sa bien-aimée assassinée, la vérité connue de tous et l'empire disparu, comment éviterait-il de sombrer dans la folie? Quelle raison de vivre lui restait-il? L'ordre de conquérir Ildakar. Les yeux toujours fermés, il refoula ses larmes, remonta à la surface de son âme et jeta sur ses émotions une sorte de sortilège qui les pétrifia. Avec le temps, elles aussi tomberaient en poussière dans son cœur. Quand il rouvrit les yeux, il vit que les jumelles le regardaient, leur souffle suspendu à ses lèvres.
« J'ai mes ordres, » dit-il, « et nous prendrons Ildakar. »
15 siècles plus tôt, il avait défié la ville en vain, mais aujourd'hui, quelque chose était différent.
« Jadis, les sorciers d'Ildakar étaient très puissants. Si le sort de pétrification s'est dissipé, c'est qu'ils le sont beaucoup moins aujourd'hui. Magicienne, où en est votre pouvoir ?»«
Le don est toujours aussi fort en nous. » répondit Ava. Et la pierre ajoute sa puissance à celle de la chair et du sang. Bref, nous sommes encore plus redoutables. Et nous connaissons des secrets que les autres ignorent, ajouta Rouva.
Nietzsche et Nathan, enchaîna Ava, ont sans doute laissé derrière eux quelque chose que nous pourrons utiliser comme une arme.
Rouva sourit.
Oui, ils ont été imprudents. Ils n'ont pas conscience du pouvoir formidable qui circule partout dans leur corps. Nous, si.
Avant l'arrivée des émissaires, les jumelles s'étaient soigneusement tondues et épilées, jetant toute cette pilosité dans les braseros. Elles avaient aussi coupé leurs ongles et brûlé les rognures. Un ennemi ne devait en aucun cas pouvoir s'approprier une partie de leur corps, si infime soit-elle.
Nietzsche et Nathan n'étaient pas aussi prudents.
Ava et Rouva se mirent en chasse, scrutant chaque pouce carré de la pièce où la magicienne et le sorcier s'étaient tenus. Agenouillées, elles sondèrent le plancher, examinèrent la porte. Outros ne les dérangea pas, conscient qu'elles étaient sur une piste. Alors qu'elles passaient les doigts le long de l'encadrement de la porte, Ava rugit de triomphe. puis elle brandit le fin cheveu blond qu'elle venait de découvrir. Se penchant vers sa sœur, Rouva étudia aussi le trophée, pas si dérisoire que ça, puisqu'il appartenait à Nietzsche.
« La voilà, notre arme !» s'écria Rouva.
« Nietzsche est une magicienne redoutable, » concéda Ava.
« Mais elle est folle de nous avoir laissé une partie d'elle-même. Rouva et moi, nous ne commettons jamais cette erreur. »
Prenant le cheveu, Rouva alla l'exposer à la lueur d'un des braseros. La rejoignant, Ava baissa les yeux sur ce trésor inestimable.
À quoi pouvait tenir parfois la victoire ou la défaite?
Outros sentit le flot de magie qui circulait entre les jumelles. Dépourvu de dons, il connaissait assez bien ses conseillères pour savoir quand elles invoquaient leur pouvoir. Comme d'habitude, elles n'allaient pas le laisser tomber. Ava saisit le cheveu et le brandit.
Les préparatifs prendront un jour ou deux, mais avec ce cheveu blond, nous lancerons un sort dévastateur dont Nietzsche sera la cible.